Ok, on m'entend bien? Voilà. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on était parti au mois de juillet-août, ça fait déjà loin. Il y en a qui rigolent déjà là-bas. Alors vous verrez défiler derrière quelques photos par-ci, par-là. Et c'est bien. Mais juste avant de démarrer ça, j'aimerais juste qu'on puisse prier, et spécialement par rapport à l'intelligence. Je me suis rendu compte, quand on partageait ce qu'on a pu vivre, parfois ça avait du mal à être reçu, parce que l'intelligence était déjà tellement formatée par le reste qu'on a du mal à accepter ce qui vient d'ailleurs. Notre connaissance, parfois, nous empêche d'aller plus loin. Je pourrais juste prendre un exemple, quand on parle qu'on mange mal en Amérique et que nous, on a dit on a super bien mangé, les gens nous disent, mais non, on mange mal en Amérique. C'est toujours ce mais non. Oui, mais peut-être c'est spécial. Non. On est parfois formaté dans nos pensées et vous pouvez voir comme photo des amis ou des autres. Il faut vraiment prier qu'on va le recevoir. Donc, on va fermer nos yeux 30 secondes, faire pause sur les photos et ensemble prier par rapport à ça. Comme ça a été chanté tout à l'heure, Seigneur, on ne veut pas s'appuyer sur notre intelligence, mais on prie qu'on soit encore transformé par ce renouvellement d'intelligence. On prie qu'on soit transformé, transformé. Viens toucher nos cœurs. Ce matin, on ne veut pas simplement délivrer des fêtes, mais je prie que ton esprit vienne imprimer dans les cœurs, bien au-delà de ce qu'on peut dire ou imaginer, comme nous-mêmes on a vécu bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Je prie que ton esprit vienne imprimer dans les cœurs, que notre intelligence, notre âme, nos émotions, notre corps soient touchés. Merci pour la grâce que tu peux nous faire de partager ça ce matin et de toi-même œuvrer et te mouvoir. Que ton esprit nous continue à nous visiter. Que la source continue à jaillir, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc c'est un petit peu un défi d'être là aujourd'hui, pas parce que j'aime pas être là, mais par exemple Jocelyne, qui a fait partie de l'équipe, qui a marché, avait tellement mal aux pieds durant toute la nuit, qu'elle n'a pratiquement pas dormi, et ce matin elle ne pouvait vraiment pas venir. Vincent a préparé des photos sur DVD, et il se rend compte ici qu'il les a oubliées. Donc c'est Bénédicte qui est partie vite chercher quelques photos chez elle. Donc c'est un défi. Avant de commencer peut-être à partager, et je laisserai la place à tous ceux qui sont partis partager ce qu'on a vécu là-bas, on va juste quand même donner quelques versets de pourquoi et du comment. Pourquoi on est en Amérique aussi? Parce que au départ, on avait cette relation qui s'est bâtie depuis 4 ans avec Russie et Janet. On se rappelle qu'on les connaissait pas, qu'ils sont venus à cibler l'Europe 2004 à Strasbourg, et à ce moment-là, alors qu'on ne connaissait pas, on a vraiment coulé ensemble dans l'intercession, et qu'ils sont venus d'une manière régulière prier pour au cours des marches d'Alsace, qu'ils sont venus prier avec nous sur Lyon. Ils étaient à Trèves l'année dernière, à Bruxelles, et à plusieurs étapes, on les a rencontrés de manière très régulière, alors qu'ils sont quand même loin de chez nous. Ils sont en Pennsylvanie, 5-6 000 kilomètres, et on les a rencontrés. Et l'année dernière, il s'était passé quelque chose de très fort, donc pas en 2008, mais en 2007, avec Martin Scott, cette rencontre. Et quelque part, c'était quelque chose, il y a eu un échange à ce moment-là. Et on savait qu'on irait là-bas un jour. Et Dieu avait prévu pour nous ce temps, et durant le temps de gestation, on s'était mis d'accord pour cet été. Ça, c'est un des éléments. Les autres éléments, c'est que depuis 4 ans, donc on a commencé à travailler sur la terre elle-même. Et juste donner quelques versets par rapport à la terre. Un des plus connus qu'on puisse avoir, c'est effectivement dans Romains. Il dit que la terre, la création entière, soupire. C'est dans Romains 8. La création toute entière soupire. Parce qu'elle est soumise à la vanité et qu'elle soupire après l'avènement des fils de l'homme. Oui. 19, excusez-moi. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption, voire part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Il n'est pas dit que simplement les hommes et les femmes soupirent. La création toute entière soupir. Et dans le terme création, Luc l'a très bien partagé, il y a notre planète, mais ça va bien au-delà, le cosmos entier. Dieu n'est pas le Dieu de simplement notre petite terre, et c'est déjà beaucoup, mais il est le Dieu du cosmos. Et quand il dit la création entière soupire, c'est la création entière qui soupire. Donc je ne sais pas comment se manifestent tous ces soupirs. Je ne sais pas comment est-ce que les étoiles soupirent. Je ne sais pas comment les planètes soupirent. Je ne sais pas comment l'espace soupire. Mais toutes choses soupirent. Parce que toutes choses ont été soumises à la vanité du péché. On se rappelle aussi que, et ça a été peut-être rappelé déjà, le sabbat est directement lié à la création. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, car en six jours, l'Éternel a créé les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui habite dedans. C'est pourquoi, et Dieu s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi il l'a béni et l'a sanctifié. Mais c'est un, souviens-toi du jour du repos. Dieu, il a fait toute chose, et il y a un lien direct entre la création et les sabbats. Toute la création et non pas simplement notre terre. D'autres versets qui sont peut-être ceux-là un peu plus nouveaux. Pas nouveaux. Non, ils ne sont pas nouveaux. Excusez-moi. Les anciens versets avec un regard nouveau. Vous savez, quand Dieu a créé les choses, il est dit qu'à un moment donné, que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cool. À un moment donné, il va séparer les choses. Les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Ça, c'est assez évident. On sait qu'au niveau de la création de l'homme, Dieu s'est saisi de la poussière. Il a dit qu'il a formé. Comment est-ce qu'il a formé, je ne sais pas. Mais j'aimerais juste attirer l'attention sur deux versets un peu spécifiques. Verset 20 de Genèse 1 et verset 24. Dieu avait créé les eaux, et à un moment donné, il va dire une chose assez intéressante. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller d'êtres vivants. Dieu dit que les eaux se mettent à grouiller, que l'eau se met à grouiller. Quelque chose doit commencer à être vivant dans l'eau. Le verset 24, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Bétail, reptiles, animaux, terrestres, chacun son espèce. Dieu dit que la terre produise. Je ne sais pas comment s'est passé ce processus de création. Il n'a pas seulement dit que les animaux soient, il a dit que la terre produise. Ainsi, la terre est devenue participante du processus de création. Il aurait pu simplement que les animaux soient. Il a dit non, que la terre se mette à produire cela. Un autre chapitre, un autre juste verset, toujours par rapport au fait de ce qui se passe parfois sur la terre, ça se passe dans 2 Chroniques 36. Et voir que ce que nous faisons a un lien direct avec la terre. 2 Chroniques 36, 21 et 20. C'est Nebuchadnezzar est là, et c'est le moment où Nebuchadnezzar va déporter à Babylone les Juifs. Et voilà ce que Dieu va dire par ce sujet. Nebuchadnezzar déporta à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée. Ils furent assujettis à lui, ainsi qu'à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplît la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il eut du repos pour tout le temps qu'il fut désolé, jusqu'à ce que l'accomplissement de 70 ans. Il dit ici que tout le pays eut du repos. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez d'un autre verset qui explique ce qui vient de se passer là. Il a été donné beaucoup plus tôt dans Lévitique, au chapitre 26 notamment, ou 25. Mmh. 26-33. On peut commencer avant, mais je peux commencer au verset 33. C'est Dieu qui parle des bénédictions et des malédictions. Et à un moment donné, il dit « Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée derrière vous. Votre pays sera désolé et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera désolé, que vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. » Vous savez que Dieu avait donné un ordre. Hein. Il a dit « Maintenant la terre, vous avez vous droit au sabbat, mais la terre a droit au sabbat. » Et parce que les sabbats n'étaient pas respectés, Dieu dit maintenant, je vais donner du repos à la terre. Et ainsi, on peut voir, on ne va pas faire très long ce matin parce qu'on va passer au témoignage, qu'en quelques versets, Dieu dit, mais la terre est importante à mes yeux. La terre est importante. Moi, je l'ai créée, c'est ma création. C'est mon jardin. J'ai fait quelque chose avec ça. Et la terre a été parfois abusée, salie. J'aimerais donner du repos à la terre. Deux derniers versets, et puis après on passera à autre chose. Un autre verset, dans Nombre aussi, Dieu avait dit, il y a un verset dans Nombre qui dit qu'on ne fera pas verser le sang sur la terre, car cela va souiller la terre. Ça va la rendre impure, maudite pratiquement. Et c'est incroyable comment le fait de verser du sang, ça souille quelque chose. La terre, on dit, mais finalement c'est que de la terre, c'est juste de la poussière, ce genre de choses, c'est pas grave. L'âme humaine est importante, mais Dieu dit, mais attention, ça souille la terre. Et ça a commencé quand cette histoire? Ça a commencé avec Caïn et Abel. Et je ne veux pas refaire toute l'histoire, mais j'aimerais juste attirer l'attention sur un verset, j'aimerais le redire après un autre verset qu'on trouve dans l'Apocalypse. L'Éternel dit à Caïn, c'est Genèse 4, verset 9, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi? Alors dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. On dit, mais si le cri est dans le sol, dans le sang. Ok. Verset 11. Maintenant tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche de ta main pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Je vais le redire. Tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche. Le sol a dû ouvrir sa bouche pour recevoir ce sang. Et ainsi, on peut voir que pour Dieu, quelque part, le sol a une bouche. Et on peut comprendre que la terre entière peut soupirer. Ce même verset, on parle d'un autre endroit dans l'Apocalypse. Je vais partager ça au mois de juin. Apocalypse 12, quand la terre, il y a la femme qui est là, l'enfant, il y a le dragon qui veut attaquer la femme et l'enfant. Et à un moment donné, il dit de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de la faire entraîner par le fleuve. Donc le serpent attaque la femme afin de l'entraîner, mais la terre, pas les hommes, pas l'Église, mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Alors je ne sais pas comment certaines choses. Je peux dire que j'ai plus de questions aujourd'hui qu'il y a 5 ans en arrière. Parce que ça, je ne sais pas. On m'a dit, mais ça voudrait dire que la terre a une volonté propre? Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que la Bible me dit que la terre est participante de ce que Dieu fait. Elle n'est pas simplement là en train de subir ce qui se passe. Elle participe. Et en cela, ce qu'on y a fait ou ce qu'on n'y a pas fait est une importance. Ensuite, quand on fait de l'intercession comme ça, quand on va sur le terrain, je vais juste partir sans lire les versets. Il y a deux passages importants qu'on peut lire par rapport à ça dans la Bible, c'est notamment, entre autres, quand Néhémie découvre ce qui se passe sur la terre d'Israël, il est complètement choqué. Quelque chose, il est bouleversé. Il y a au fond de lui quelque chose, il est complètement remué, il va revenir, et on voit que ce qu'il a, il va se rendre compte à un moment donné que ses pères ont péché. Et ils vont dire, mais mes parents, nos pères, nos mères, alors c'est peut-être pas nos pères physiques, mais c'est les pères de la nation. Nos pères ont péché. Et il vient se repentir de ça. C'est pareil quand Daniel, à un moment donné, Daniel qui est quand même un gars qui a vécu des choses, on va dire, assez fortes, où il marche avec Dieu. Puis à un moment donné, il comprend que ses pères, et donc ses mères, ont péché. Et il va rentrer dans un temps d'intercession, il va demander pardon pour ce que lui, il a fait. Parce qu'il dit, c'est ma nation, finalement c'est moi. Et à cela, on peut s'identifier à ce qui s'est passé. Et c'est une partie des choses qu'on a vécues. On s'est identifié. à ce qui s'est passé. Juste avant que j'oublie de dire, il y aurait quatre temps aujourd'hui, un temps où, qui est fini là, où j'ai juste quelques versets, ou quelques idées, concepts bibliques. On aura un temps de partage des uns et des autres. Il y aura un temps où je veux qu'on puisse prier ensemble, et puis il y aura un petit temps surprise derrière. Donc si possible, ne partez pas avant la fin. Si ce n'est pas possible, partez avant la fin. Voilà. Donc Rossi et Janet avaient partagé ici comment leur comté était complètement ligoté, complètement entouré de bandelettes comme Lazare qui était sorti du tombeau. Et ils ont dit à plusieurs reprises, alors qu'ils étaient venus au moins Lyon, même ici, avec des pleurs, mais venez, venez, on a besoin de vous parce qu'on a besoin d'être déliés. Et c'est vrai que la fin de l'année a été suffisamment énergique, donc on a mis certaines choses au fond. Et tout d'un coup, début juillet, quand j'ai dit, mais comment proclamer la libération là-bas? Comment libérer ces gens? Qui est suffisant pour ça? Et est venu à l'esprit quelque chose de simple. La seule manière de pouvoir libérer les gens, c'est passer par la repentance. On pourra libérer ces personnes avec des paroles de proclamation de victoire. La seule manière de pouvoir libérer, c'est de se repentir. Mais de quoi finalement? De ce que nous, ici, on a fait à ces gens qui sont partis. Parce que pourquoi on est parti là-bas? Parce que il y a ce qu'on appelle les anamis chez les Anabaptistes. Alors un très rapide retour d'histoire. D'où viennent ces personnes? Ces gens-là, ce sont dans ce qu'on appelle les Anabaptistes. Les Anabaptistes ont eu leur origine en Suisse, près loin de chez nous. Ces Anabaptistes étaient des gens qui n'étaient pas vraiment d'église au sens formel, mais ils étaient complètement réveillés, ils avaient une passion pour Dieu, ils témoignaient à leur prochain. En quelques décennies, ils se sont répandus comme un feu sur la terre d'Alsace, de Suisse et de France. Il y en avait partout. Et ils étaient soumis à l'esprit, très autonomes. C'était le peuple prophétique de l'époque. La conclusion de ça, c'est que, bien sûr, c'est arrivé en même temps que la réforme. Hein. Donc c'était pas après, c'était pas un effet de la réforme, ça arrivait en même temps. Première des choses qui s'est passée, c'est que les catholiques, déjà qui ne supportaient pas les réformateurs qui avaient commencé, alors ces hérétiques-là, ils ne les supportaient pas du tout. Donc il y a eu des persécutions des catholiques vis-à-vis des anabaptistes. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ce qui a eu de terrible pour nous en tant que réformateurs, et c'est pour ça que nous, on y a été en tant que descendants de la réforme, c'est que les réformateurs, Luther, Zwingli et d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ces gens au pilori. Et quand on lit l'histoire des anabaptistes, elle est absolument terrifiante. Parce que comment même les réformateurs qui ont ce cœur pour raviver le pays ont pu à ce point-là tuer, massacrer, pas seulement une fois, mais c'était une persécution permanente. Si bien que ces gens-là ont fui dans les montagnes, d'abord en Suisse, ils se sont acclimatés, ils ont réussi à cultiver dans des conditions terribles, et leur qualité de très bon fermier a commencé à se répandre. Mais la persécution a continué, il y en a qui ont commencé à fuir. Et puis, un beau jour, en tout cas en Alsace, la guerre de 30 ans est passée par là, 1630 environ. 1648, c'est Louis XIV. On a toujours été que la guerre de 30 ans avait dévasté toute l'Alsace, et l'Alsace avait très peu de gens. Il y a des endroits où 9 personnes sur 10 avaient été tuées. Les gens ne cultivaient plus la terre parce qu'à cause de toutes les horreurs qui s'y passaient. Et à un moment donné, notamment les Ribeaupierre, qui étaient des réformés, pas loin de Ribeauvillé, je pense, Sainte-Marie-Mine, tout ça, on dit, sont allés chercher ces fermiers, on dit, écoutez, venez chez nous. Venez chez nous. On va vous donner la possibilité de cultiver une terre et vous serez à l'abri. Mais, il y avait un petit mais, vous avez le droit de venir. Par contre, vous n'avez en aucune manière le droit de répandre votre hérésie. Et ces hommes et ces femmes, les anabaptistes, ont simplement dit oui à cause des persécutions. Mais ce qui s'est passé, c'est pour eux, c'est que ça a été comme un piège dans lequel ils sont tombés. Et depuis ce moment-là, les anabaptistes sont appelés les tranquilles sur la terre, les silencieux, les calmes, ceux qui ne font pas de vagues. Après, se sont créés deux mouvements, Amish et Ménonite. Ménonite, on connaît beaucoup plus, Amish moins. Amish, c'est qu'on voyait des grands avec des belles barbes. Ce mouvement s'est créé là-bas. Depuis ce temps-là, Amish et Ménonite ne témoignent plus. On était là-bas, et c'était la première fois depuis qu'ils sont partis, bizarrement dans le temps où on était chez eux, qu'ils allaient témoigner en public, qu'ils allaient aller dans la rue. La première fois depuis pratiquement 400, 500 ans. Ils ont fait un vœu de silence, et ils n'ont pas fait un vœu devant n'importe qui, devant Dieu. Quand tu as fait un vœu, tu as fait un vœu. Et depuis ce moment-là, leur bouche est fermée. Je parle de témoignage, hein. Je ne parle pas des œuvres, ils en ont plein, mais leur bouche est fermée. Il y a une malédiction sur leur terre. Mais s'il y a une malédiction sur leur terre, à votre avis, qu'est-ce qui se passe sur notre terre? Qui leur avons imposé ce silence? Alors, il y a une malédiction sur nous aussi. Et on savait qu'on devait passer par les temps de repentance. Je vais raconter deux fêtes qu'on a pu vivre, et après je laisserai parole aux autres. Un des fêtes qui m'a énormément marqué, parce que, en fait, pour une fois, ce qui m'a peut-être plus bousculé, c'est pas la marche elle-même. C'est tous les temps qu'on a vécu à côté de la marche. Et ça a été des temps incroyablement forts avec beaucoup de personnes. Je vais rencontrer un qu'on a vécu le troisième, quatrième jour, on était là-bas. Donc on devait rencontrer les bishops de la conférence mennonite de Lancaster. Alors les bishops, ça veut dire quoi? C'est des responsables, cette conférence. Conférence, c'est pas dans le sens un meeting, mais c'est dans le sens une fédération des églises. Et donc ces gens-là, cette vingtaine, trentaine de responsables qui étaient là, représentaient environ 200 églises. Représentaient des dizaines de missionnaires. Rien que un qui s'appelle Lloyd, qui est responsable, il est responsable d'environ 6000 missionnaires dans Dover, dans le monde. Ils ont amené à Christ par le témoignage, mais pas dans leur pays, mais en Éthiopie, 1,5 million de personnes. Ils ont ouvert une école en Chine pour la formation de pasteurs. Les deux critères, c'est croire en Dieu qui va pouvoir tous leurs besoins, parce que l'école n'a pas un sou, cette école en Chine. Deuxième, être prêt à mourir physiquement. Si tu es prêt à accepter ces deux critères, alors tu es capable de rentrer dans cette école pour formation de pasteur. Et quand tu es là et tu sais que tu es là-bas pour partager certaines choses, tu te fais un petit peu petit parce que tu te rends compte que ça vient bien au-delà. Et ces gens-là, ils partageaient à un moment donné cette fameuse conférence, ce matin on devait y aller par hasard. Ces gens-là, finalement, ils étaient. Certains avaient dit au départ qu'ils ne seraient pas là, où il y avait. Si vous savez comment ça se passe, personne n'est là. Puis finalement, la salle était pleine. Et ce qui m'a bouleversé, c'est premièrement entendre leur cœur de qu'est-ce qu'ils voulaient, comment est-ce qu'ils voulaient témoigner. Il disait d'une manière claire, il faut que l'Église sorte des murs. Il faut que l'Église sorte des murs. Bon, je ne vais pas redire tout ce qu'ils ont dit, mais c'était absolument incroyable et beau de voir ça, émouvant. L'Église va sortir des murs. Et on voit des jeunes, des hommes âgés, la plupart étaient 60 ans, je pense, prêts à se remettre en question. Et l'après-midi, ils ont été évangélisés, entre guillemets. Ce n'est pas l'Église qu'ils ont envoyé, eux, ils y ont été. Les responsables sont partis deux par deux. Et puis, durant ce temps-là, on nous a laissé là une heure la parole. Et Rusty a rappelé l'histoire des Amish et des Ménonites, le vœu de silence. Il a invité ses pasteurs à se repentir d'avoir fait ce vœu de silence, d'avoir accepté ça. Et nous, derrière, on est venus pour se repentir de ce que nous, on leur avait imposé. Parce que la conséquence de ça, c'est pas juste un vœu de silence. Si on se tait, ça veut dire que des dizaines et des milliers vont en enfer. Ça, c'est la conséquence. Des familles réduites en esclavage, parce qu'on a imposé cela. Et alors qu'on était, on a pu partager ça avec eux, tout simplement, alors c'est des Ménonites, on s'est retrouvés tous ensemble, à genoux. Les larmes coulaient à droite, les larmes coulaient à gauche. Ces gens étaient complètement bouleversés. Parce que enfin, ils allaient pouvoir sortir de la malédiction. Enfin, il y avait le vœu de silence qui allait être brisé. Enfin, ils allaient pouvoir parler. Enfin, ils avaient l'espoir de pouvoir sortir de la cage qui s'était refermée sur eux il y a 500 ans. Comment décrire l'émotion qu'on a vécue à ce moment-là? Comment décrire le fait de pouvoir dire « On est en train de libérer un peuple entier ?» Si les autres veulent venir, ce serait bien, ma clanque. Peu importe. Bénédicte, Caroline, Vincent, Samuel. Ça a été un des moments... Voilà. Je vais laisser les autres. Il y en a eu d'autres comme ça. Je parlerai après ce qu'on a vécu à la conférence. Pas l'autre conférence. Ouais, la croisade. C'est juste un minuscule aperçu de ce qu'on a pu vivre jour après jour après jour.
Hello everybody, I speak English. Je vais essayer de parler un peu français parce que non, c'était vraiment des moments forts et parce que mon père a dit, je voulais un peu aussi le partager quoi. Il avait vraiment un cœur, mais à demander pardon, à se repentir, c'était incroyable. Ce que mon père a raconté le quatrième jour, on est là-bas, on a demandé pardon, et eux tout de suite, ok, ben on se repent, on a accepté le vœu de silence, ben c'est nous qui allons nous repentir. Ils se sont tous mis à genoux et ils ont vraiment demandé pardon à Dieu. Après on a pu les libérer encore. Et puis l'après-midi ils sont partis, ils ont eu des retours très satisfaisant, plein de témoignages apparemment. Puis, désolé papa, mais je vais aussi parler de la tente des croisades. En fait, c'est une association qui évangélise. Et en fait, ils ont un big chapiteau, et t'as tout le monde qui peut venir. Et donc, ils restent une semaine dans un endroit, puis après, ils partent, ils vont dans un autre endroit pendant une semaine. Et en fait, c'était après la marche, je crois. Il s'avère que bon, nous on était là et par miracle, en fait, le gars qui aurait dû parler ce soir-là, il n'a pas pu venir. Il a eu tout un cirque et en fait, c'est nous qui avons pu venir au micro. Rusty a parlé du vœu de silence et tout. On a pu demander pardon et en fait, ensuite, on est descendu en bas de l'estrade et puis là, les gens ils nous ont pardonné et nous ont bénis. Alors, c'est un peu dur à expliquer, mais toute la salle s'est levée. Ils étaient tous là à venir nous prendre dans nos bras. Alors, bon, une personne, tu la prends, ouais, c'est sympa. Une deuxième, au bout de 15 personnes, c'est vraiment incroyable. Et puis, les gens qui... Il y avait un gars, Aaron, peut-être qu'on le verra sur les photos. On avait fait la marche avec lui pendant... C'est un ami. On a fait la marche, on s'était super bien entendu. Et ce soir-là, il est venu, les larmes aux yeux. Et... C'est vraiment incroyable, quoi. Enfin bref, il y a eu tellement de choses. La nourriture était super bonne aussi. Entre le Burger King, bref. Non, on a pu aussi se lier d'amitié avec plusieurs personnes. Bon, voilà quoi. C'était vraiment incroyable. Pendant la marche, on a vécu des choses aussi. Moi, je vais laisser parler aussi, non, bon, j'en ai pour. Voilà quoi. Suivant.
Bonjour. Alors, moi, je vais commencer par parler de l'accueil. Quand on est arrivé là-bas, on s'est vraiment senti accueilli, attendu. On se sentait comme à la maison. C'était vraiment formidable l'accueil qu'on a reçu, que ce soit de la part des Amish, des Mennonites, de tous les gens. Et quelque chose qui m'a marqué aussi, c'était pendant la marche. En fait, là-bas, ce sont des grandes étendues. Les propriétés, en général, ne sont pas fermées. Et de temps en temps, quand on marchait, ben, on voyait sur le bord de la route, dans les jardins, des personnes. Et les Américains qui étaient avec nous commençaient à... Enfin, on disait bonjour, ils nous répondaient, ce qui est rare ici en France. Enfin, ça dépend des endroits. Et on leur disait ce qu'on faisait, pourquoi on était là, qu'on marchait, que c'était une marche de prière. Et ce qui était vraiment surprenant, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'à chaque fois, la réponse était la même. « Ah, mais c'est formidable !» « Ah, mais continuez, on en a vraiment besoin. » Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Parce qu'ici, on aurait eu tout à fait d'autres réactions. Si on avait commencé à partager avec les gens qu'on rencontre sur le bord de la route, il y aurait eu à la limite des petits sourires en coin, voire des moqueries. Là-bas, ce n'était pas du tout le cas. Même une fois, on était en train de marcher à une pizzeria, on a voulu aller aux toilettes. Et là aussi, pareil, il n'y avait pas de problème. Ils nous ouvraient la porte, on n'avait pas besoin de consommer. Ils nous accueillaient à bras ouverts. Et il y avait une voiture de police devant cette pizzeria. Et il y avait deux policiers. Et pareil, ils ont commencé à parler avec nous. Et à nous dire, « Ah, mais on a vu deux autres groupes de marcheurs d'une dizaine de personnes, mais qu'est-ce que vous faites ?» Et on leur a raconté. Puis là aussi, « Ah, mais c'est formidable, puis on a besoin, continuez, allez-y, on est de tout cœur avec vous. » De la part de policiers, ça m'a vraiment étonnée. Voilà, ben sinon, la marche proprement dite, mais comme le disait Vito, c'est pas vraiment la marche qui a été le plus émouvante. C'est tout ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé après. Vincent parlait de l'attente de la croisade, je vais laisser à Bénédicte, parce qu'elle voulait en parler, d'en dire davantage. Mais c'est vrai que ça a été peut-être le temps le plus fort, cette rencontre. Mais pendant la marche aussi, il y avait les signes qui nous ont accompagnés. Déjà, quand on a marché entre Lyon et Marseille, et je vous avais raconté cette histoire du renard, ben là, c'était... Il y a eu des signes qui nous ont accompagnés tout au long, mais tout particulièrement le jour où on a traversé Colombia. Et Colombia m'a rappelé Cavaillon, qu'on avait traversé avec Jocelyne. Et Cavaillon, pour moi, c'était la cité du melon, ça ne pouvait être qu'une ville merveilleuse. Et en fait, quand on est passé là, c'était horrible, c'était désolé, c'était triste, c'était mort. Et Colombia, ben, c'était la même chose. C'était la désolation, la mort. Et en fait, une fois qu'on l'avait traversé, on a pique-niqué un peu plus loin sur les hauteurs. Et au lieu de continuer la route, on a tous eu à cœur de s'arrêter, tant pis si la fin de la journée ne se passait pas selon nos plans. Et on s'est scindé en deux équipes, parce qu'une habitante de Colombia nous avait partagé qu'en fait, cette ville, elle était doublement veuve, parce qu'elle aurait dû être choisie comme capitale des États-Unis à la place de Washington. Et en fait, ça s'est joué à une voix près. Et elle aurait dû également être choisie comme capitale du comté, et c'est Lancaster qui a été choisie. Et c'était la première ville qu'on traversait, on voyait autant de... Tout était comme abandonné, d'habitude tout était propre, les pelouses étaient bien tondues, tout était... C'était beau. Et là, c'était... Il y avait des mauvaises herbes qui poussaient sur les trottoirs, il y avait des poubelles qui s'amoncelaient. C'était vraiment... Donc on a eu à cœur, on s'est scindé en deux équipes. Il y a une équipe avec les garçons qui sont partis. Ben, je laisserai peut-être à Samuel le choix de raconter, puisque je n'y étais pas. Ils sont partis prier de leur côté pour le gouvernement, pour la restitution. Et nous, on est allés... On a retraversé, c'était la première fois que ça nous arrivait, on a retraversé cette ville en priant pour la consolation, pour la restitution. À un moment donné, Jocelyne a versé de l'huile. Et dans cette ville, il y avait un musée du temps. Et comme on avait fini de traverser, il n'était pas très tard, on s'est dit qu'on pourrait peut-être aller là-bas. Et on s'est retrouvés là-bas. Et devant ce musée, il y avait une espèce de tour avec au sommet une grande horloge. Et on voyait par les portes, aux quatre coins c'était ouvert, on voyait par les portes le mécanisme de l'horlogerie. Et on a prié là-bas pour le temps de Dieu, que le temps s'aligne avec le temps de Dieu. Et on venait de finir de prier, on était resté encore un peu, et tout à coup, alors qu'il était 16 heures, on a entendu sonner 5 coups. Et on s'est rapproché, on s'est demandé ce qui se passait. Et en fait, à l'intérieur, il y avait deux personnes qui étaient en train de remettre le mécanisme à l'heure. Et quand on leur a demandé ce qu'ils faisaient et pourquoi ils étaient là, ils nous ont dit que, et puis si ça se passait souvent, ils nous ont dit qu'ils venaient deux fois dans l'année. Et on est tombé pile au moment où ils étaient là. Pour moi, ce n'était pas un hasard. Voilà. Et sinon, je ne me rappelle plus. Je laisse la place aux autres.
Alors, moi, ce qui m'a marqué particulièrement, c'est on sentait que le fruit était mûr par rapport au fait d'enlever le vœu de silence. On sentait vraiment que c'était le temps de Dieu. Et que nous Français, on a vu juste notre part à apporter et juste le temps, le moment où il fallait. Et c'était comme si on a senti vraiment que des années auparavant, le travail avait commencé et qu'il fallait maintenant que nous, en tant que Français, on puisse apporter notre part de puzzle, que des pièces étaient ajustées au fur et à mesure, mais qu'il fallait notre pièce à nous, il fallait que la pièce des Français puisse être placée. Et vraiment, ce qui nous bouleversait, c'était qu'on était simplement témoins des œuvres préparées par avance, que vraiment on était là pour faire quelque chose qui était déjà tout prêt et qu'on avait juste notre part à faire. Et du coup, c'était troublant parce que c'était d'une facilité, ça demandait pas des grands efforts, il fallait juste faire ce qu'on devait faire. Et ce qu'on devait faire, donc c'était simplement demander pardon et puis pouvoir libérer ensuite ce peuple. Et on voyait qu'on atteignait vraiment précisément la cible parce que c'était le temps de Dieu. Et on le voyait quand quand on demandait pardon, on voyait le cœur des gens qui étaient préparés, qui étaient mûrs et qui atteignaient vraiment précisément ce qu'il fallait. Et ça, c'était plus d'une fois, ça nous a vraiment, vraiment marqué. Comme disait Caroline, on était là-bas 3 semaines, donc il y avait une semaine avant la marche, il y avait une semaine de marche et il y avait une semaine après la marche. Eh bien, chaque temps, c'est pareil, c'était chaque temps qu'on vivait, rien n'était hasard. Les rencontres qu'on faisait avant, ça construisait le pendant, puis ça construisait ensuite l'après. Et par exemple, au début, la première semaine, les premiers jours, on a surtout rencontré des familles Amish. Donc on est allé, on était vraiment des privilégiés parce qu'on a pu aller dans des maisons de familles Amish. Et donc on a pris les repas avec eux, on a été reçus vraiment comme des rois, comme des princes et des princesses. Et puis la tournure du repas prenait un sens qu'on n'avait pas forcément prévu. Par exemple, je me rappelle le premier repas, c'est le premier repas chez les Amish. Eh bien, alors pas nous parce que nous vaut anglais, sauf qui peut. Mais Vito a eu un excellent contact avec le chef de famille et il a pu partager et donc ce chef de famille a été touché et puis déjà on venait juste de poser les pieds sur le sol américain presque et déjà c'était parti quoi, on était parti dans le mouvement que Dieu avait préparé pour nous. Et puis, donc, il y a eu le temps de la marche, où c'est vrai que ça a été des moments très forts. Moi, ce qui m'a énormément marqué, c'était la présence des enfants. Il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants de famille Amish qui étaient là, qui étaient présents, et plus que présents, qui étaient vraiment très participants. Ouais, j'étais stupéfaite de voir que les enfants étaient participants, mais très acteurs, et qu'ils comprenaient ce qui était en train de se faire, et ils le vivaient avec nous. Et c'est vrai que ce sont des familles, des grandes familles, puisque la plupart, ils sont entre 10 et 12 enfants, dans une même famille, donc c'est vraiment des grandes familles. Et vraiment, à un moment, Dieu nous a donné ce psaume 127, et on sentait, le psaume 127, vous savez, c'est quand il est dit que les enfants sont un héritage, sont une récompense, et sont des flèches. Et vraiment, on sentait que c'était l'avenir de ces peuples Amish et Ménonites. L'avenir, et leur héritage, c'est vraiment leurs enfants. Et s'ils en ont plein leur carquois, plein la famille, c'est pas pour rien, quoi. Et donc, il y a eu le pendant la marche, où il y a vraiment eu des temps forts, hein, comme disait Caroline. Hein, aussi, un des moments où on sentait, quand on était justement à Columbia, dans cette fameuse ville désolée, on a pris un temps de prière ensemble, et vraiment, on a senti l'attestation de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, on a vu les fameux aigles qui sont les symboles américains, le symbole de l'Amérique. Donc, on a eu trois grands aigles qui ont commencé à tourbillonner autour de nous. Et vraiment, on en frémissait, quoi. C'était très, très impressionnant, et c'était vraiment comme une attestation de Dieu. Et c'est le seul moment où on a vu ces trois aigles. Et puis les gens du coin nous ont dit, vous savez, il n'y en a plus que 10 ou 12 dans la région, et c'est très rare de les voir. Et on a pu les voir, mais moi, j'ai même pu les prendre en photo. Ah ben, purée. Voilà. Donc ça, c'était pendant la marche. Et puis ensuite, il y a eu cette fameuse semaine après la marche, où là aussi, tous les soirs, on avait des réunions. Alors honnêtement, à un moment, on en avait ras-le-bol des réunions. Notre chair disait « stop ». Et puis bon, on y allait quand même. Et puis à chaque fois qu'on y était, waouh, ce qui se passait, c'était tellement extraordinaire. On sentait tellement que c'était une rencontre préparée par Dieu, qu'à chaque fois, on ressortait, mais vraiment encouragé, vraiment mille fois reconnaissant pour Dieu, pour ce qu'il était en train de faire. Et notamment, cette fameuse tente de croisade, où effectivement, comme Caroline l'a dit, il y a eu... Non, c'est pas Caroline, c'est Vincent. Donc on a... Donc rien n'était prévu pour qu'on y soit, et puis finalement tout s'est mis en place pour qu'on puisse partager ce qu'on avait sur notre cœur, le message qu'on avait sur notre cœur. Donc on a demandé pardon, et puis donc il y avait presque 200 personnes sous cette tente. Ben, ils n'y étaient pas vraiment préparés, enfin ouais, c'était inattendu, c'était pas prévu dans leur semaine, mais en fait ça fait vraiment mouche, ça atteint la cible là où il fallait. Et donc le responsable de cette croisade, à la fin, a pris le micro, puis il a dit « Bon, eh bien, les Français ont demandé pardon, et nous, qu'est-ce qu'on fait ?» Et ils se sont levés d'un seul cœur. Et puis ils se sont levés, ils sont venus vers nous, et puis ils pleuraient, ils étaient touchés, et vraiment ils nous ont pardonné, quoi. Et ils ont reçu ce pardon. C'était vraiment un moment extraordinaire. C'était très très fort. Et là encore, on était vraiment témoins, parce que nous, on avait juste dit ce qu'on avait à faire, et on n'avait pas des grandes émotions, parce que on l'avait déjà dit plein de fois. Donc, voilà, c'est simplement, c'est l'obéissance, et le fait d'obéir, eh bien, au moment où il faut et quand il faut, Dieu fait le reste, quoi. Et ça, on en était vraiment les témoins, même les spectateurs. Et puis, une autre chose qui m'a aussi énormément marquée, c'est les temps qu'on a eus avec les pasteurs. Plusieurs fois le soir dans les églises, parce qu'on était accueillis dans les églises pendant la marche. Alors là, je suis en train de me rendre compte que je m'embrouille un peu. Au niveau chronologie, je ne sais plus. Enfin bon, peu importe. En tout cas, un soir, on avait un temps, on a rencontré des pasteurs, je ne sais plus, on avait 15, entre 15 et 20, je ne sais plus, de la même région, et du comté de Lancaster. Et donc, on a à nouveau partagé le message, pourquoi on était là. Et à nouveau, les pasteurs vraiment très assoiffés pour eux, mais aussi pour leurs églises, afin qu'il y ait un jour nouveau, qu'il y ait quelque chose qui commence de nouveau. Et voilà, on a prié pour eux, et c'était vraiment des temps très très forts où on sentait vraiment l'attestation du Saint-Esprit. On sentait le Saint-Esprit qui était avec nous et qui travaillait leur cœur et qui travaillait nos cœurs en même temps. Et quand on est reparti, eh bien vraiment on peut, on, On s'attend à un jour nouveau, à un nouveau commencement pour eux, pour cette région. Vraiment, c'est comme si une porte était ouverte et puis maintenant, bien, c'est à eux de continuer, de faire la suite. Voilà, puis juste une dernière chose encore, un autre moment qui a été aussi important pour nous, on a été invité à aller dans une maison de prière. Alors là, on a découvert ce que c'était une maison de prière. Parce que je ne sais pas si ce genre de ce modèle existe en France, j'en sais rien. Mais donc dans cette maison de prière, ça n'appartient pas à une église. Ça appartient, c'est différents membres de différentes églises qui viennent pour prier dans cette maison de prière. Et donc il y a de la prière 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc il y a des roulements comme ça. Et donc nous on a pu assister à, je ne sais plus combien de temps on a assisté. C'était, ouais, on y est resté la journée, mais on se dit une journée à prier, waouh, c'est comment on va faire, mais c'est passé vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire ces maisons de prière. En tout cas, moi, ça m'a donné une vision pour nous ici, chez nous, quoi.
Bon, du coup, j'ai plus rien à dire. Sauf, confirmer que quand on était là-bas, il y a tout qui coulait, on n'avait rien besoin de pousser, ou. Enfin, on était vraiment des témoins, et puis il y a tout qui se faisait sans qu'on ait besoin de faire vraiment quelque chose. Et puis, aussi pendant la marche. Ce qui était vraiment encourageant, c'est que il y avait Dieu nous parlait tout le long de la marche, il nous donnait des signes, et ça, enfin pour moi en tout cas, c'était vraiment encourageant d'entendre sa voix, de voir comment il nous parle de chaque manière et tout. Et puis après on a pu partager, prier pour les choses qu'on avait reçues. Mais on était, enfin en tout cas au début de la marche, on était, il n'y avait pas de temps où on était juste en train de marcher. On cherchait à écouter Dieu, mais il n'y avait rien. Donc, il n'y avait pas de temps comme ça. Donc. Et chaque fois, tout le temps, il y avait quelque chose que Dieu nous disait. Jusqu'à quand on a fait le tour de la marche, on a commencé au nord, je crois, on est arrivé au sud. Et une fois qu'on était au sud du comté de Lancaster, là, c'était un peu plus dur. On a dû persévérer vraiment pour faire une percée, pour prier. Ouais, une percée prophétique. Ouais, et une fois qu'on a terminé la marche, c'était le lendemain, je crois, c'était le lendemain. Ouais, le lendemain, il y a les Amish qui ont eu l'idée de faire un tour de proclamation. Je ne sais plus pourquoi.
En fait, ils avaient reçu un songe une semaine auparavant, comme quoi, comme le marathonien qui va courir pour proclamer. Ils avaient reçu un songe une semaine auparavant, et ils voulaient refaire un tour, ce qu'on a fait en marchant les 200 km, les refaire en courant, comme étant pour annoncer la victoire. Donc le but, c'est plus de marcher, mais de courir, annoncer avec un drapeau et de marquer Jésus est Seigneur, courir et faire le tour les 200 km en vingtaine d'heures, proclamer Jésus est vainqueur. Un tour de victoire, un tour où on écrase l'ennemi.
Voilà. Oui, donc on y allait à 4h du matin, on est parti avec Vincent, et on s'est retrouvé là-bas avec quelques amis, il n'y avait vraiment pas grand monde. Et il y avait tous les petits, même il y avait peut-être 5 ans, des petites 5 ans qui couraient avec les drapeaux, et c'était vraiment encourageant. Et puis après, on a couru, Vincent et moi. Puis là, ça les a encouragés, eux, parce qu'on a couru beaucoup, selon eux. Et puis, finalement, on est parti rejoindre l'équipe. Et ils ont continué la marche, la course. Et le soir, à 1h du mat, c'est ça? 2h du mat, il y a Vito qui allait les rejoindre pour un petit tour de la fin, quoi. Je te laisse dire.
En fait, je croyais qu'il y avait plus à marcher, à courir, parce que le gars qui devait m'emmener, il me disait, écoute, on vient plus tard, parce que quand je suis arrivé, il restait 5-6 km à faire, mais il y avait tellement de monde. Il y avait les jeunes, les gars. Il y avait 20-30 personnes confinées à 2h du matin. Ils y vont en famille. Joël, réunissez les uns, les petits, les grands, ils y vont en famille. Quand c'est qu'on voit... Eux, ils ont compris quelque chose, hein. Je peux vous dire que... Waouh. Et c'est vrai qu'on a fini la course avec une joie incroyable à 2h du matin. Ça a été... Enfin, moi, j'ai pratiquement rien couru. J'étais un peu frustré parce que j'étais là-bas. Pas frustré, non. C'était super de voir ça. Mais ils ont été avec moi. Juste quand même, quand on parlait du fait d'être comme des catalyseurs là-bas, on était, notre présence permet aux choses de réaliser. Ils savaient qu'ils avaient démarré ce projet, puis quand ils ont voulu démarrer, il n'y avait pas beaucoup de monde, à 4h du matin. Et ils étaient au point d'abandonner. Et Vincent et Samuel sont arrivés. Et ça a percé. On était là-bas comme des catalyseurs de ce qui allait arriver. Catalyseurs. Ce qui allait permettre à la chose d'arriver. Ça ne veut pas dire, une fois que tu avais lancé le truc, hop, ça roule. Et après, tu peux t'enlever. Mais c'était incroyable. Ils sont là, les deux gars derrière, ils ont permis ce tour de réussir. S'ils n'avaient pas été là au moment où ils avaient démarré, ça ne serait pas fait. Juste, il y aurait tellement à dire, j'aimerais pouvoir prendre le temps de prière. Il est... Bon, deux petites choses. En essayant d'aller vite. Tout à l'heure, on parlait des cinq coups. Hein. Il faut dire que ce matin-là, j'avais partagé le matin tôt que Dieu me montrait l'histoire des cinq vierges, des cinq folles. Et que le véritable gouvernement sont celles... Parce qu'il fallait, ce jour-là, on avait reçu sur le cœur de pouvoir marcher en tant qu'épouse de Christ. Et l'épouse amène le royaume de Dieu sur la terre. Il y a l'épouse à l'autorité. Si tu n'es pas l'épouse, tu n'as pas l'autorité. Tu es un serviteur, tu es quelqu'un d'autre. Mais si l'épouse se met en route, elle a une pleine autorité. Je veux dire, un invité peut avoir un peu d'autorité chez toi, mais si tu es l'épouse du maître de maison, alors tu as toutes les clés. Et ce matin-là, on avait plusieurs fois des choses différentes, mais ce matin-là, on devait marcher en tant qu'épouse, dans l'intimité avec Dieu, pas forcément dans le combat ou dans ce genre de choses. Et c'était ce verset, c'est les cinq vierges folles, les cinq sages. Mais finalement, celles qui s'attendent à l'époux jusqu'au bout, qui font tout pour avoir de l'huile, celles-là manifesteront le vrai gouvernement. Cinq. Et dans la journée, alors les deux groupes sont parés, elles sont allées voir les trucs. Alors, qui signe aussi, le gars qui c'était, ils ont ouvert le musée, c'était fermé. Le gars était suisse. Et l'année dernière, on avait prié pour le timing en Suisse. Et Jocelyne a prié pour le gars. Elle ne savait même pas. Quand elle a fini de prier, elle a dit merci. Le gars, il vient de Neuchâtel. Petite histoire. Et eux, ils ont été là-bas, donc ce musée, mais c'était pas qu'un musée, c'était aussi un centre de formation au niveau du temps. Et la veille, on avait prié pour le réalignement des choses sur le temps de Dieu. Et nous, notre groupe aussi avait à cœur d'aller là-bas, et on s'est retrouvés aussi. Et quand nous, on avait fini de prier, il a sonné 5 heures. Et 5. Et on ne savait pas ce qu'ils avaient vécu. Et 5, quand on a prié sur la rivière, parce qu'on a coupé, on était pour sceller des choses, on nous a aussi rappelé que la rivière en venue, il y avait 5 branches de la rivière qui descendaient. Et au-dessus, il y avait 5 tribus qui formaient comme un gouvernement des tribus indiennes. 5 a été le chiffre de la journée. Du matin jusqu'à la dernière minute, quand tout s'est arrêté aux 5 coups. 5 gouvernements de Dieu. Une dernière chose que j'aimerais pouvoir partager, en dehors du fait que ça a été des temps où on a vécu avec ces gens-là, une amitié dès le premier jour, on était tous arrosés, de la tête aux pieds, on n'a jamais vécu ça. Les repas, j'explique pas, certaines courses de manger de maïs, des garçons derrière, ça dégoulait de partout, mais bon, c'était formidable. Il y a des gens, vraiment des temps très sérieux, avec notamment, aussi durant la marche, un jour on a vraiment eu à cœur de parler, donc, Bénédicte, Jocelyne et... Caroline avait prié pour des femmes. Donc je partage ça parce que Jocelyne devait le partager, puis elle n'est pas là. Et elles avaient à cœur un fardeau parce qu'une femme marchait devant elle, et puis un peu courbée, comme si elle portait tous les fardeaux. Et ils ont prié, dans leur cœur, ils ont prié, mais Seigneur, libère-les. Cette femme, on s'arrête, enlève ses bas, ses collants, en fait, ses grandes chaussettes assez lourdes, ses chaussures pour continuer à marcher pieds nus. Et elles ont vécu ça comme étant un signe de libération. Et Jocelyne disait qu'elle avait reçu avant-hier soir que c'était une manière pour ces femmes d'être libérées et de pouvoir marcher avec elles, que tout ce qui les emprisonnait. Mais bon, la journée s'est passée autour de la femme, et puis dans le dernier relais, on avait vraiment eu à cœur de laisser les femmes passer devant pour vraiment les libérer dans leur appel, dans leur ministère, croire qu'elles avaient quelque chose à... Et dans cette contrée où c'est très religieux, alors il y a des églises partout, mais
c'est quand même très religieux. Donc là, les femmes sont parties, Rossi avait pris un temps de repentance, lui par rapport à sa femme, en reconnaissant qu'on a besoin de libérer sa femme, que les femmes ont les ministères. Puis nos petites femmes sont parties devant, Caroline, Bénédicte, Jocelyne et Janet, et puis une cinquième femme qui s'est réunie, c'est de nouveau cinq, intéressant, une femme du local. Et puis à un moment donné, Jocelyne, c'était le dernier relais, rien n'est prévu, elle se met à, vous savez, cette intercession où tu te tords par terre, tu as les entrailles qui bougent complètement, et elle commence à crier. Et nous, on était un peu plus derrière, et puis au bout d'un moment, je vais voir, mais tu sais ce que tu es en train de crier? Et elle me dit non. Elle criait Isha. Isha. Elle ne sait pas ce que c'était. Et Isha est le nom de la femme en hébreu. Ish. Dieu créa Ish et Isha. Elle ne savait pas qu'elle criait ça. Et quand on dit qu'on écoutait le cri de la terre, le cri de ce que Dieu avait à faire à ce moment-là, on dit tant comme ça, on a vécu plein d'autres. Ça, c'était incroyablement fort. Et puis on a fini. Finalement, j'étais après en train de marcher avec elle en disant, mais on libère les femmes pour pouvoir marcher côte à côte. Et à temps de la croisade, c'est vrai qu'on n'a pas, j'ai dit ce jour-là, on a prié, on a demandé pardon à beaucoup de responsables, à beaucoup de groupes. Mais j'aimerais ce bonsoir demander pardon à l'épouse, pas à l'église. Parce que parfois, quand on pense église, c'est structure, dénomination, ce qu'il y a à faire, responsable. À l'épouse, parce que c'est l'épouse qui a été blessée. Voilà. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse quand même prendre un temps de prière. Pourquoi? Parce qu'on a vécu quelque chose de fort là-bas, et je crois que le son doit résonner ici. Ce son de la libération, parce que si eux, on a vécu ce temps, on les ont pardonnés, alors on ramène, aujourd'hui, on veut prier pour qu'on, parce qu'on ramène le son de ce pardon ici sur la terre d'Alsace. Avant de démarrer ce temps de prière, j'ai fait une folie là-bas, je me suis acheté quelque chose. Mais j'aimerais faire résonner ce chauffard ici parce qu'il vient de là-bas. Et que peut-être, Franck, tu puisses faire résonner le chauffard ici. Il n'a pas encore sonné sur la terre d'Alsace, celui-là. J'aimerais qu'on puisse commencer à... Tu sonnes le chauffard et puis j'aimerais qu'après, on puisse entendre le deuxième chauffard résonner avec celui-là. Et Bénédicte, j'aimerais qu'on puisse prier qu'on libère le pardon sur la terre et qu'on appelle ce jour nouveau à exister. Et je prie que qu'on puisse tous venir ensemble dans ce temps de prière. Terre d'Alsace, nous te libérons de ce qui t'a tenu lié. Terre d'Alsace, terre de France, nous te libérons du sang versé. Nous te libérons des vœux que tu as faits. Nous te libérons maintenant dans le nom de Jésus. Disons que ce sang qui a résonné là-bas sur la Pennsylvanie est amené ici et résonne ici. Terre d'Alsace, écoute le son de la ciel. Écoute le son. Tu es libre maintenant. Tu es libre. Tu es libre. Colia maqueta mâché, terre d'Alsace, donne du fruit. Terre d'Alsace, sois libérée. Libère tes enfants. Libère tes enfants. Kera maqueta, que les Mennonites se lèvent. Que les Amish se lèvent. Que l'église se lève dans un nouveau mouvement. Sois libérée. Que les chaînes tombent. Que les lanières tombent. Dans le nom de Jésus.
C'est Kaliamak, à cause du pardon qui était donné, à cause du pardon qui était donné, à cause du pardon qui était donné, à cause du sang de l'agneau. Nous disons grâce sur cette terre maintenant, grâce sur la terre, grâce sur la terre, grâce sur les églises, grâce sur ton peuple, aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Jésus. Quelqu'un veut donner une parole?
Seigneur, au nom de toute l'Alsace, nous voulons demander pardon. Pardon d'avoir pour les persécutions contre les anabaptistes. Pardon pour le joug que nous avons fait peser sur eux. Pardon d'avoir fait taire cette voix. Te demandons pardon. Te demandons de nous pardonner en tant qu'Église. Nous te demandons de nous laver en tant que peuple d'Alsace. Papa, nous te demandons que ton pardon coule sur nous. Que tu nous libères de ce que nous avons fait, de ce joug que nous avons fait peser. Nous te louons, Papa, pour le pardon. Nous te louons pour ce pardon de ce peuple sur la terre d'Amérique. Nous te louons, Seigneur, pour ce pardon qui a coulé de leurs lèvres. Et Père, nous le recevons ce matin. Nous recevons ce pardon. Seigneur, en tant qu'Alsaciens, nous recevons ce pardon. En tant que terre d'Alsace, nous recevons le pardon. Nous louons que tu nous délies de ce que nous avons fait. Nous te remercions, Papa, au nom de Jésus.
Luc et Manuela, je vais vous demander d'avancer.
Voilà.
C'est juste pas fini encore. Donc il y a un premier cadeau qui a été fait. Il y en a un deuxième qui n'est pas encore arrivé. Et je ne sais pas si vous avez pu le voir. C'est dans un. Il y a un très grand bâton, une houlette. Vous savez, c'est un bâton. Il a été donné à l'équipe qui était là-bas dans un but très spécifique, avec une autorité. C'est quelqu'un qui les a donnés à plusieurs personnes. C'est vraiment un bâton d'autorité. C'est vraiment la houlette avec le retour. Et ce bâton, on devait le ramener avec nous, sauf qu'il faisait 2 mètres de haut. On ne pouvait pas le couper dans l'avion. Donc il doit arriver, mais c'est quelque chose qui a été donné, et je pense que c'est ta houlette et ton bâton me rassurent. Ta houlette et ton bâton, et on n'a pas le bâton dans l'église, mais la houlette est en train d'arriver. Il y a quelque chose du mandat pastoral qui va être redonné tout à nouveau, et ce bâton est en train d'arriver. Les choses bougent. Hein. Vous savez, cette démarche dans le christianisme aujourd'hui, il y a pareil un petit entrefilet au mois de septembre. L'Église luthérienne mondiale est en train de préparer un texte qui demande pardon aux anabaptistes. C'est un truc qui se passe aujourd'hui. Et il y a besoin de ça. Rusty et Jeannette m'ont dit qu'il y avait des gens, des anabaptistes qui étaient venus à cette tente de croisade, parce qu'ils ont venu à cette tente de croisade, des Amish, ils ont été excommuniés de leur Église. Parce qu'ils sont venus à la tente de croisade. Ils ont un tel pouvoir. Mais à ce moment-là, l'Église entière est en train de dire, écoutez, ça ne va pas. Les choses doivent s'arrêter. Et il y a tout un processus pour que énormément de choses sont en train de bouger. Le dernier cadeau qu'on voudrait vous offrir, et c'est pas nous, hein, faut bien que ce soit ça, c'est l'Église, c'est pour l'Église, c'est pas nous qui l'avons acheté. C'est quelque chose qui nous a accompagnés durant la marche. C'est des huiles. Et une maison de guérison en train de s'ouvrir, et c'est des huiles. On ne pourra pas tous les ouvrir, mais il y a juste un flacon Kevin, ça c'est normal. Avec les explications, les correspondances en anglais, donc j'ai fait une copie que vous puissiez traduire, quelqu'un veut le traduire en français, de chacune des huiles. Il y a de l'aîné, mais il y a aussi du coriandre. Il y a l'huile de joie, il y a l'huile selon Exode 30, il y a l'hysope, il y a... «
Je pense que c'est un cadeau de faire couler cette huile ici. Et c'est quelque chose qu'ils nous ont offert. Et on voudrait simplement pouvoir le laisser ici et dire voilà, recevez, soyez bénis. Et c'est vrai qu'on avait 3 cadeaux en revenant ici. Je pensais au roi mage qui était venu aussi avec 3 cadeaux. On a quelque chose à présenter devant le prince, devant le roi. On n'a pas les mains vides, pas à cause de nous, parce que les choses ont été données. Si vous avez l'occasion de sentir les sens des parfums qu'il y a là-dedans, rien qu'ouvrir la boîte déjà, ça embaume. Alors c'est pareil, on va peut-être appeler un autre couple en tant que responsable aussi. Venez là, Nadine, Franck et Donatienne. C'est pas que je ne veux pas le donner à vous. Vous venez tous ensemble, venez le prendre, peut-être les responsables. Venez. Je pense que c'est. Est-ce qu'il y a un autre responsable ici? Non, hein. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Voilà, je voudrais vous donner cette onction et que cette onction puisse continuer à couler sur la terre de France. Et que partout où on puisse aller, une nouvelle onction puisse vraiment être libérée. Et que les parfums se répandent. Que les parfums se répandent sur la terre de France et la terre d'Alsace. Que les parfums se répandent au milieu de sur ton épouse. Que les parfums se répandent dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà. C'est plus long que prévu. Désolé.
Seigneur, nous recevons ces huiles, Seigneur, et nous disons qu'elles ne sont pas pour nous, mais elles sont pour qu'elles coulent et pour qu'elles débordent. Et Seigneur, nous déclarons que nous voulons être un canal. Ne pas garder, Seigneur, que ce lieu ne soit pas un lieu d'eau croupissante, mais un lieu d'où coule ta vie. Et Seigneur, et que ton huile, alors que nous la recevons, nous croyons que tu vas la faire couler et la multiplier au fur et à mesure qu'elle coule.
J'ai eu à cœur pendant qu'on priait, quand Vito priait en demandant pardon, d'avoir fait taire les anabaptistes. J'avais aussi à cœur que, comment dire, en fait, c'est vrai que l'Église est aussi la terre qui reçoit la parole. Et si c'est une bonne terre, bah, la parole porte du fruit, quoi. Et je ressentais aussi de cette manière que, comme si c'était important aussi de demander pardon à Dieu, d'avoir aussi fait taire toute expression de la parole qui sorte de nous, quoi. Les dons, l'expression que Dieu veut faire passer, quoi, les arts, tout ça, quoi. Et de la même manière que beaucoup en France, on a fermé la bouche à ceux qui voulaient témoigner, on a aussi beaucoup fermé les portes à ceux qui voulaient exprimer la vie que Dieu avait mis en eux, quoi. Et donc, je sentais aussi que c'était quelque chose qui était important aussi avec ce qui se passe aussi, quelque chose de nouveau, où Dieu veut vraiment faire couler son onction et que son corps puisse se mettre en marche et exprimer vraiment la vie qui vient de Dieu, quoi. Donc voilà, j'avais à cœur ça, quoi.
Voilà, bon, beaucoup de choses. Désolé pour l'heure, hein, pour ceux peut-être qui avaient des timings. Ou... En tout cas, une bonne après-midi à chacun. Et merci à l'équipe, à Vito. Merci d'avoir été là-bas, d'avoir payé le prix. On peut applaudir vraiment... Je crois qu'on est tous enrichis et on va l'être dans les temps qui viennent. Voilà. Oui, Jocelyne, tu l'as dit, merci. Et on termine par prier pour Jocelyne, juste, et c'est le mot final. C'est pas normal qu'elle soit pas là, qu'elle souffre des pieds. Seigneur, nous bénissons Jocelyne en cette fin de culte. Nous prenons autorité au nom de Jésus sur ce qui la tient, ses douleurs de pieds, ce qui l'empêchait de marcher, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous disons restitution, restauration de ses pieds. Nous disons guérison dans son corps, dans l'autorité de Christ. Et en tant qu'Église, en tant que princesse du Dieu vivant, nous levons le bâton d'autorité. Et nous disons à l'ennemi, maintenant, tu lâches Jocelyne. Tu lâches Jocelyne. Et qu'elle puisse courir à nouveau la course de la foi, mais au niveau physique également. Merci Jésus. Amen. Atakaramai. Oui. Amen. Oui, c'est vrai. Amen. 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 Oui, je pense qu'il y a quelque chose avec les femmes là. Enfin voilà. En tout cas, bon après-midi et je rappelle l'équipe qui doit rester ici pour la GAP aussi. On se retrouve en bas.